Les par actualité. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Paractualités de ce 3 octobre 2017. Hélène Denis qui vous accompagne et en manchette des caméras dans les CHSLD d'ici 2018. Gaspésie-Montréal sur un cheval aveugle des non-voyants au cinéma à Rimouski. Paralympien recherché visitera Vancouver et Toronto pour découvrir la future génération d'athlètes paralympiques potentiels. En entrevue, j'aurai le plaisir d'avoir en studio Maxime Despomerleau, artiste, animatrice, chroniqueuse et super-héroïne dans ses temps libres. Aussi, une entrevue avec Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, l'ASAC. Le gouvernement du Québec encadrera d'ici janvier l'utilisation des caméras de surveillance dans les centres hospitaliers de soins de longue durée, CHSLD. C'est une nouvelle tirée du journal de Montréal.com. La ministre responsable des aînés et de la lutte contre l'intimidation, Francine Charbonneau, a bon espoir qu'il n'y aura pas trop d'opposition à l'endroit de son règlement concernant les modalités d'utilisation de mécanismes de surveillance dans un CHSLD. Selon un document de 3 pages dont TVA Nouvelle a obtenu copie et qui balise l'utilisation des appareils de surveillance, on indique que c'est le résident ou son mandataire qui décidera de l'utilisation de caméras pour assurer sa sécurité ou celle de ses biens. Il est aussi précisé qu'on devra aviser la direction de l'établissement et qu'on devra faire une réévaluation de l'utilisation tous les 6 mois. On va de l'avant parce qu'on met en place les mécanismes de protection pour les aînés, mais aussi pour le personnel et les établissements, insiste la ministre Francine Charbonneau. Quand on va rentrer dans l'établissement, on va dire ici, certaines chambres sont sous surveillance. C'est rassurant pour le personnel où un résident confus peut aussi poser des gestes à son endroit, dit-elle. Au terme d'une consultation de 4 jours, la ministre croit pouvoir répondre aux attentes de ceux qui réclamaient la présence de caméras pour protéger les résidents de CHSLD qui voudront les utiliser. Ceux qui auront des objections auront 45 jours pour le faire à compter du 11 octobre prochain. Dans la presse.ca, hausse de 4 % des signalements à la DPJ. Les directions de la protection de la jeunesse du Québec ont traité 91 191 signalements l'an dernier en hausse de 4 % par rapport à 2015. C'est en moyenne 250 signalements par jour. De ce nombre, un peu plus du tiers a été retenu. Pour l'ensemble de la province, la plus grande part des signalements retenus ont trait à des sévices, abus physiques, suivis de la négligence puis des mauvais traitements psychologiques, ont dévoilé les directrices des DPJ du Québec lors de la présentation de leur bilan annuel à Montréal. Le quart des signalements retenus concerne des adolescents, souvent en raison de troubles de comportement sérieux. Comme société, est-ce qu'on fait le maximum pour soutenir nos adolescents en détresse? Lance Mme Dionne, directrice de la protection de la jeunesse à Montréal. Ils peuvent être dérangeants, on en convient. Ils peuvent être perturbants, ça peut être tentant de les mettre à l'écart, indique-t-elle. Nous, ce qu'on dit, c'est mettre à l'écart de la classe, d'un groupe de loisirs ou d'un camp de vacances, c'est un premier pas vers l'exclusion sociale. Comme adulte, on doit prendre le temps de réfléchir à ça. Ça ne devrait pas être une option de les mettre à l'écart et de baisser les bras. Les signalements retenus de mauvais traitements psychologiques ont connu une hausse de 9 % par rapport à 2015 à l'échelle de la province. Et elle est en face de moi, Maxime Despomerleau. Bonjour.
Bonjour.
Maxime, une habituée, quelqu'un qui connaît bien Canal M et qui est bien connu par les auditeurs de Canal M. Vous avez animé récemment Sortir, vous avez été chroniqueuse à l'émission M l'été. Ça va bien?
Oui, merci.
Oui, toujours très active dans toutes sortes d'activités.
Oui.
Alors,
toujours.
Je vous présente comme une artiste, animatrice, chroniqueuse, super héroïne. Ça, ça pique notre curiosité. Parce que vous venez nous parler, Maxime, d'un atelier qui s'appelle « Rencontre avec Batwheel ». D'abord, qui est Batwheel?
Batwheel...
Est-il parent avec Batman?
Non, mais on pourrait dire que Batman est le père spirituel de Batwheel. Batwheel, c'est mon alter ego. C'est une super-héroïne en fauteuil roulant que j'ai créée avec une amie, la réalisatrice Jessie Poulain, qui habite en Abitibi-Témiscamingue.
Ah oui?
Et donc, on a créé un court-métrage ensemble qui est sorti en 2013 et qui montre un peu justement des petites aventures de cette super-héroïne qui... Bon, elle n'a pas tous les super pouvoirs ni tout le budget de Batman ou d'autres super-héros qu'on connaît bien, mais elle a une grande volonté de sauver des personnes en situation d'handicap.
Ah oui, alors c'est une rencontre à laquelle vous nous conviez. En fait, c'est votre personnage, Batwheel, super-héroïne en fauteuil roulant, dans le cadre du 6e mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. C'est important de le préciser. Et que fait-elle, Batwheel, au mois de l'accessibilité universelle, Maxime, ou Batwheel, je ne sais pas?
C'est ça, en fait. Batwheel revient un peu dans l'action dans le mois d'octobre. Ça fait plusieurs années que je participe au mois de l'accessibilité universelle dans le réseau des bibliothèques. Et en fait, c'est moi, c'est Maxime qui se présente. Si on veut, une petite présentation d'une durée d'une heure que je fais avec des élèves de 5e et 6e année du primaire. Donc, troisième cycle du primaire, c'est organisé par, en fait, les bibliothèques qui invitent différents participants. Il y en a plusieurs dans le mois, dans tous les arrondissements de Montréal, et qui s'entendent avec des écoles de proximité. Et là, en fait, les écoles viennent visiter. Et pour moi, ça dure une heure, je diffuse le court-métrage qui est d'une durée d'une dizaine de minutes. Mais c'est surtout, si on veut, la porte d'entrée pour parler de handicap, pour parler de différents types de déficiences, et aussi de pouvoir répondre aux questions des enfants.
Quel genre de questions posent les enfants?
Oh mon Dieu, c'est vraiment
large.
un large spectre.
Peut-être la question qui vous a le plus touché ou à laquelle vous ne vous attendiez pas.
Mon Dieu.
Je ne vais pas vous piéger.
Non, mais c'est parce qu'il y en a
tellement. Parce que Batwheel, habituellement, elle n'est pas piégeable.
Non, surtout, elle n'est pas piégeable. Mais c'est intéressant de voir, en fait, que je sème quand même le doute dans leur esprit.
Ah oui?
En disant, oui, mais vous voyez, moi, je fais ça la nuit ou je fais ça dans mes temps libres. Disons, dans les dernières années, on m'a souvent demandé, le sujet de l'intimidation est très présent à l'école.
Oui.
Et donc, on m'a souvent demandé, est-ce que tu as été intimidée parce que moi, je circule en fauteuil roulant, je l'ai depuis l'enfance, donc est-ce que c'est quelque chose auquel tu as dû faire face? Et ma réponse est en non, mais... Ça devient un sujet de... On peut en parler de la différence et de pourquoi est-ce qu'on peut penser que quelqu'un pourrait être intimidé par son handicap, par sa condition. Mais sinon, il y a des questions très, très amusantes, très liées au quotidien. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? As-tu des animaux? C'est quoi ta musique préférée? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être grande? Bon, tout ce genre de sujets. Il y a une question que j'avais déjà eue, mais c'était pas dans le cadre du mois de l'accessibilité, mais je la nomme pareil parce qu'elle m'a beaucoup marquée. Je fais de l'animation auprès des enfants depuis quand même très, très longtemps au cégep. Il y avait un enfant qui m'avait demandé, justement, de cet âge, 10-11 ans, est-ce que tu penses que tu aurais autant d'amis si tu n'étais pas en fauteuil roulant?
Oh! Qu'est-ce que vous aviez répondu?
J'ai dit, je pense que oui. Parce que, je pense qu'on est amis avec moi parce que je suis gentille, parce que je m'amuse avec mes amis, je les écoute, je suis présente
parce que lui, il sentait que vous attiriez peut-être une certaine empathie parce que vous vous déplaciez en fauteuil roulant? Ou il n'y avait pas ça dans son esprit, non?
Non, pas du tout. Lui, c'était juste comment est-ce que cette différence-là peut avoir eu un impact.
Oui.
Et donc, je disais, moi, je pense qu'on n'est justement pas amis parce que je suis en fauteuil. Donc, oui, je pense que j'aurais autant d'amis parce que finalement, ma personnalité est la même, ce que je fais, tu sais, je prends soin de mes amis.
Oui.
Et donc, j'avais trouvé ça vraiment très brillant, puis je me disais, mon Dieu, quand j'avais 11 ans, je pensais pas à ça. C'était pas ces questions-là que j'avais
en tête.
C'est ça
qui est stimulant avec les enfants, ils sont purs, ils sont spontanés. J'imagine que vous aimez faire ce genre d'animation-là
Oui,
avec
puis
eux.
justement, il n'y a pas de filtre et c'est aussi le fait qu'ils ont l'occasion finalement de parler à quelqu'un et non pas de poser les questions à leurs parents ou que ce soit sur la rue ou dans le centre d'achat quand là on croise quelqu'un puis on a envie de peut-être de lui poser des questions mais on est trop timide. Là, c'est fait pour ça.
Oui.
Et donc je prends vraiment le temps au début de mon atelier de les mettre à l'aise, les mettre en confiance. Et avant de parler de différents sujets, puis bon, je parle de super-héros aussi qui ont certains handicaps, Daredevil et aveugle. Bon, le professeur Xavier de X-Men, il est paraplégique, mais bon, tu sais, et on sait que ça participe au personnage, mais ça ne définit pas le personnage car ils
Absolument.
ont d'autres super pouvoirs, d'autres capacités à mettre de l'avant. Et c'est un peu ce genre de choses-là que je leur amène.
Alors, Maxime, rappelez-nous les dates et les bibliothèques où vous allez intervenir.
Oui, c'est ça. Ben moi, je commence demain, donc le 4 octobre, je vais être à la bibliothèque Marie-Huguet. Et la semaine prochaine, le 11 et 12, je vais être à la bibliothèque de Verdun.
Alors, le public est bien chanceux de vous accueillir. Maxime Despomerleau, merci beaucoup d'être passé à Canal M. Vous revenez quand vous voulez.
Oui, ça me fait plaisir.
Salut
Merci
bien.
beaucoup de l'invitation.
Des caméras dans les CHSLD, alors ça, j'en ai déjà parlé. Je poursuis avec Gaspésie-Montréal sur un cheval aveugle tiré de journaldequebec.com. Un couple d'artistes entend franchir la distance entre la Gaspésie et Montréal à dos de cheval, dont l'un est aveugle et l'autre présente une bosse sur la bouche, ce qui fait qu'il doit être monté sans mort. Sandra Bessette et Zach Hunt avancent en moyenne d'une vingtaine de kilomètres par jour pour, entre autres, démontrer qu'un cheval qui présente un handicap n'a pas à être mis de côté et est encore fonctionnel. Les gens sont tellement gentils, c'est un voyage plus humain qu'équestre, dit Sandra Bessette. Sur leur passage, les chevaux sont rassasiés par les pommes et les carottes de jardin qu'on leur offre. Ils sont hébergés dans différentes écuries, ce qui fait qu'ils n'ont jamais eu à attacher leurs chevaux Abby et Hazal à un arbre. Ils en profitent aussi pour faire la promotion de leur spectacle Oasis qui allie cirque et tour équestre. Sandra Bessette, une cochère guide à Québec, chevauche Hazal, un animal de 6 ans qui présente une grosse bosse sur la bouche qui l'empêche d'être monté avec un mors. Elle ne le tient qu'avec une corde accrochée à son nez. Zach Hunt, son ami de cœur qui est malentendant et qui porte des prothèses auditives et les yeux d'Abby, un cheval calme et aveugle âgé de 15 ans. Il le dirige grâce à certains mots comme « hop » s'il y a une chaîne de trottoir ou avec le mot « doucement » dit sur un ton léger pour un passage plus étroit. Le couple a quitté Grande-Rivière le 5 septembre et veut arriver à Montréal au début de novembre. Les non-voyants et personnes avec un handicap visuel ont pu profiter d'une soirée au cinéma pour la première fois à Rimouski grâce à un service de vidéo-description. L'organisme Paraleuil a eu l'idée d'offrir un service de vidéo-description l'espace d'une soirée en organisant la projection d'un court et d'un long-métrage québécois mettant en scène des non-voyants. L'occasion était donc plus qu'idéale. Une quarantaine de personnes, dont deux personnes de l'Association des personnes handicapées visuelles du Bas-Saint-Laurent, ont pu voir et entendre les documentaires québécois « Prends ma main » et « La résurrection d'Hassan » à la coopérative Paradis. Le président de l'association Jimmy Turgeon a été charmé par cette première rimousquoise. C'était vraiment bien fait, bien décrit. On sentait tous les changements d'atmosphère, les lieux. J'ai vraiment aimé ça. Non-voyant depuis la naissance, Jimmy Turgeon a indiqué que cette expérience partagée dans un cinéma était incomparable face à ce qui est habituellement offert à la télévision. Il espère que ce type de projection adaptée pourra être réitérée, question également d'attirer davantage de non-voyants de la région. La directrice générale de Paraleuil, Valérie Mongrain, s'est chargée elle-même de livrer la vidéo-description à l'aide de microphones et de transmetteurs sans fil. Je pense qu'il y a un plus grand souci de tous les gens de penser à ceux qui ont des difficultés d'accès à la culture. Paraleuil envisage dans un futur pas si lointain d'organiser une projection pour les malentendants avec une interprète en langue des signes. Et c'est le moment de parler avec Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec, la SAC. Bonjour, Madame Chartrand.
Bonjour.
Alors, la SAC a été fondée en 1979 et se consacre à développer la pratique du sport et à sensibiliser le grand public et les autorités au plein potentiel des personnes vivant avec une déficience visuelle.
Oui.
Et depuis 90, elle est reconnue officiellement comme l'organisme qui régit les sports de compétition pour aveugles au Québec.
C'est bien ça.
Alors, Madame Chartrand, vous êtes avec nous en entrevue pour nous parler d'un sport qui s'appelle le mini-goalball. Mais avant de parler du mini-goalball, quelle est la différence entre le goalball et le mini-goalball? Une question qui suggère, en fait, de nous expliquer, de nous décrire les deux sports.
Bien, en fait, c'est le même sport. C'est comme le mini-basket ou le basketball. Un est fait pour les enfants. Donc, le panier est plus bas, le ballon est plus petit.
Ah, d'accord.
C'est un peu la même chose avec le goalball et le mini-goalball. On est assez chanceux d'avoir quelques ballons plus petits de goalball.
Mm-hmm.
Et c'est ça, en fait, on fait jouer les jeunes en bas de 12 ans, idéalement entre 8 et 12 ans, au mini-goalball.
Oui, et les ballons sont particuliers, hein?
Oui, c'est un ballon, le ballon de goalball, c'est gros comme un ballon de basketball, sauf qu'il y a 8 petits trous dedans pour pouvoir entendre les clochettes qui sont à l'intérieur quand ils roulent au sol.
Mm-hmm. C'est la façon de ce sont des repères, là, ces petites cloches-là.
Oui, effectivement. Fait que le mini goalball, le ballon, il est plus petit et moins lourd.
Avec le même principe?
Avec le même principe.
OK.
Et ce qui est dommage, c'est que le fournisseur ne fera plus ces ballons-là.
Ah fait non!
Là, non, malheureusement.
Pourquoi?
C'est une question de guerre politique internationale, comme d'habitude.
Mais là, il faudrait que quelqu'un, justement, prenne la balle au bon, si je peux dire.
Le problème, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas 10 milliards de personnes, pas 10 milliards, mais 10 millions de personnes qui veulent les acheter, ces ballons-là.
Mm-hmm.
Fait que ça coûte toujours beaucoup, beaucoup
d'argent,
de sous pour faire ça. Fait que, anyway. Mais tout ça pour dire que là, présentement, on en a, nous, et on les utilise pour que les jeunes puissent commencer à jouer au goalball, mais de manière sécuritaire et de la bonne façon.
Oui, et il faut faire attention à vos ballons, étant donné que
il n'y en a pas beaucoup.
Non, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup.
Puis le but, là, c'est qu'ils apprennent le bon mouvement tout de suite. Parce que si le ballon est trop pesant, trop gros pour eux, ben ils développent des mauvaises manières, des mauvaises façons de lancer le ballon. Puis après ça, c'est dur de casser une mauvaise habitude.
Mm-hmm.
Fait que...
Alors, est-ce que ce sont les joueurs du goalball qui apprennent, au goalball plutôt, qui apprennent aux enfants à jouer au mini goalball?
Non, c'est des kinésiologues parce qu'au départ, c'est d'apprendre le mouvement. Hein?
Oui.
C'est le mouvement. Et le but de tout ça, c'est que ces jeunes-là, dans leur école, pratiquent le mini-goalball, soit au service de garde ou dans le cours d'éducation physique. Et, mettons, le 26 novembre, on veut faire un genre de mini-rencontre, mini-compétition entre ces jeunes-là et leur équipe. Donc, ça va être l'intégration à l'envers. Ils vont pouvoir amener leurs amis voyants et venir jouer, puis avoir la possibilité là, de gagner une petite médaille. Là.
Oui. C'est un jeu qui se joue assis ou debout?
Non. Non, moitié-moitié.
Ah oui? À quatre pattes?
Moitié-moitié dans le sens que pour arrêter le ballon, étant donné que le but a comme 13 mètres de long, Il faut se coucher sur le côté, les bras dans les airs.
Oui.
Au-dessus de la tête, en fait, pour être étendu, pour couvrir le plus long du terrain pour arrêter le ballon. Fait qu'on arrête le ballon avec notre corps, mais dès qu'on a arrêté le ballon, on se lève debout, on recule au but et on fait 3-4 pas d'élan et on lance vers l'autre équipe comme un lancer au quilles.
Ah bien, j'aimerais bien aller voir des joueurs de mini-goal ball ou de goal ball. Où on peut les voir?
Ça se fait les dimanches à l'école Joseph Charbonneau, qui est située au 8200 rue Rousselot. Il faut entrer par l'entrée de la piscine. Le mini goalball commence vers 15h30 jusqu'à 16h45, parce qu'à 17h, il faut être sorti de là.
Bon, bien, merci. Puis, il nous reste peu de temps, mais je suis certaine qu'on va avoir l'occasion de se reparler, Mme Chartrand. Mais le programme du sport pour moi, en quelques mots, qu'est-ce que c'est?
Bien, c'est un programme qui a été conçu pour les jeunes de 6 à 14 ans qui ont un handicap visuel pour apprendre toutes sortes d'habiletés de base en pratiquant plusieurs sports différents, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, d'hiver ou d'été.
Mm-hmm.
Puis présentement, c'est notre 7e année à Montréal et c'est la première année que le programme est offert aussi à Québec.
Bon, alors, ben merci beaucoup pour toutes ces informations. Puis, en tout cas, vous avez piqué la curiosité de bien des gens. On connaissait le gold ball un peu plus, mais le mini gold ball, c'est pour les enfants et pour qu'ils apprennent à bien jouer, pour qu'ils deviennent des professionnels au gold ball, parce que c'est une discipline olympique, ça, au paralympique.
Paralympique, oui. Oui, éventuellement, mais c'est surtout aussi pour qu'ils puissent intégrer leur ami à l'école.
Oui.
À leur sport, c'est l'intégration à l'envers. Au lieu que ce soit eux qui s'intègrent au sport régulier, ben c'est les petits voyants,
oui,
leurs petits amis voyants qui s'intègrent à leur sport à eux.
La vapeur qui est renversée. Alors,
oui,
on vous souhaite quelqu'un qui va vous offrir la chance d'avoir des ballons jusqu'à la fin des temps.
Oui, j'aimerais ça.
Merci Nathalie Chartrand, directrice générale de la SAC. Au plaisir.
Au plaisir à vous. Au revoir.
Paralympien recherché visitera Vancouver et Toronto pour découvrir la future génération d'athlètes paralympiques potentiels. C'est dans le lezar.com, le comité paralympique canadien en collaboration avec le réseau des instituts du sport olympique et paralympique du Canada est heureux d'annoncer que Paralympien recherché sera à Vancouver le dimanche 22 octobre et à Toronto le dimanche 26 novembre. Paralympien recherché est un excitant programme conçu pour identifier les futurs athlètes paralympiques potentiels. C'est une activité d'une journée qui offre aux personnes ayant un handicap la chance de tester leurs habiletés et de découvrir quels sports paralympiques leur conviennent le mieux. L'activité accueille aussi des athlètes actuels et passés de tous les niveaux qui visent changer pour un nouveau sport paralympique ou découvrir un autre sport qui peut compléter leur discipline principale. L'activité est ouverte aux personnes ayant un handicap physique ou une déficience visuelle de 14 à 35 ans. L'inscription est gratuite et peut se faire à paralympique.ca/paralympien-recherche au pluriel. En plus de découvrir leur aptitude dans diverses habiletés sportives, les participants auront la chance de rencontrer des athlètes paralympiques, d'entendre leur histoire et de voir leurs médailles. En Ontario, une récente étude publiée dans le Canadian Medical Association Journal montre que la nouvelle politique consistant à prélever des organes sur donneur cœur arrêté a contribué à l'augmentation de 57 % les dons d'organes depuis 2006. Auparavant, le prélèvement s'effectuait sur critères de mort cérébrale qui supposaient une perte complète et irréversible de toute fonction cérébrale. Cependant, la pénurie de donneurs a conduit la province à revoir sa politique de prélèvement et a autorisé désormais les praticiens à prélever des organes dès que la circulation sanguine est arrêtée. Une hausse qui semble insuffisante aux auteurs de l'étude. Le taux en 2015 est de 18,2 donneurs par million de personnes et est très inférieur au nombre de donneurs potentiels, estimé à 40 à 89 donneurs pour un million de personnes. Ils estiment que le Canada doit continuer à se concentrer sur l'augmentation du don d'organes et la prévention du décès et du handicap pour les candidats potentiels de transplantation. Un mannequin canadien pourrait perdre la vue après un tatouage dans l'œil. C'est dans françois.fr. Toutes les modes ne sont pas sans risque et Kat Gallinger, mannequin de 24 ans, en a fait les frais. Après s'être fait tatouer l'œil, la jeune femme risque de perdre la vue et alerte ses fans sur les dangers de telles pratiques. Kate Gallinger voulait juste compléter sa collection de tatouages. Elle va peut-être perdre la vue. Ce mannequin canadien publie depuis vendredi des photos de l'un de ses tatouages ratés pour prévenir ses fans de ne pas faire la même erreur. Il y a 3 semaines de cela, la jeune femme de 24 ans avait décidé de se faire colorer le blanc de l'œil, sa couleur préférée étant le violet. Le mannequin aux dizaines de tatouages a opté pour que sa sclère, le blanc de l'œil, soit de cette teinte. Ce genre de tatouage consiste à injecter des pigments dans l'œil. Mais très vite, la jeune femme a constaté que l'encre coulait sur son visage en permanence et que son œil gauche avait enflé. Dès les premiers jours, la jeune femme a publié des images de son œil sur sa page Facebook, consciente qu'il y avait un problème. Ainsi, elle voulait alerter des fans. Après plusieurs voyages à l'hôpital et des traitements antibiotiques, Kat Gallinger pourrait tout de même perdre la vue. Douloureux, irrité, l'œil de la jeune femme n'a apparemment pas fini de la faire souffrir et sa vision est devenue floue. Cette mode du « eyeball tattoo » peut être très dangereuse. Une encre de piètre qualité ou du matériel mal stérilisé peuvent être à l'origine de cécité totale. Sur les photos publiées par le mannequin, son visage d'habitude si fin est gonflé et la jeune femme semble beaucoup souffrir. Ses fans la soutiennent, mais certains n'hésitent pas à lui dire que cette idée de tatouage était stupide. Et on en parlait tantôt avec Maxime Despomerleau, le mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal. Les Montréalais sont invités à profiter des activités offertes par les bibliothèques de Montréal dans le cadre du mois de l'accessibilité universelle. En famille ou entre amis, tous sont conviés à passer des moments enrichissants et émouvants dans le cadre d'activités ludiques et variées. Les Montréalais pourront profiter de leur visite en bibliothèque pour emprunter l'un ou l'autre des documents adaptés de la collection des bibliothèques. Rappelons que la collection compte plus de 22 000 livres audio, 34 000 livres en gros caractères, 1100 DVD et Blu-ray, avec audio description pour malvoyants et 18 300 DVD avec sous-titres pour malentendants, ainsi que des jeux de société adaptés. La programmation complète des activités du mois de l'accessibilité universelle dans les bibliothèques de Montréal est disponible à bibliomontréal.com/AU pour accessibilité universelle. Merci d'avoir été à l'écoute des Paractualités. Merci à mon équipe, Anne-Laure Janson et Jean-Sébastien Laliberté. Et merci à mes invités, Maxime Despomerleau et Nathalie Chartrand. Ici Hélène Denis, bonne journée. À demain.